7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins. La semaine dernière, les Chinois fêtaient leur nouvel an. Aujourd'hui, nous allons en Chine. Vu de loin, elle ne fait pas franchement rêver. Les préjugés ayant la vie dure, encore imprégnée de communisme, cruel, injuste socialement, inégalitaire, oppressive, polluante et polluée, antidémocratique. Pas exactement l'idée du paradis, non? Et dans ses rapports avec le monde, pas mieux. Prédatrice, fourbe, nourrissant en secret de noirs desseins d'envahissement du monde, de colonisation de l'Afrique, et j'en passe. Aujourd'hui, les voisins, on va tenter de mettre les préjugés de côté et de regarder nos voisins chinois dans les yeux. Ils seraient au nombre d'1,4 milliard aujourd'hui, grâce à nos deux invités, en duplex depuis Pékin, Renaud de Spins. Bonjour.
Bonjour Anastasie.
Journaliste indépendant, vous vivez en Chine et vous êtes auteur de l'excellent dictionnaire impertinent de la Chine chez Books Éditions. À l'entrée choc des civilisations de votre dictionnaire, vous dites « La Chine est peut-être le grand pays le plus étranger à la culture occidentale et à première vue le plus compliqué à comprendre. Cette distance inspire à la fois de la fascination à certains et de la peur à d'autres. Pourtant, si l'on compare les valeurs fondamentales de la civilisation contemporaine chinoise et de la civilisation occidentale, la Chine est probablement une des plus proches et plus intimes alliées de l'Occident, loin devant les mondes arabo-musulmans et indiens par exemple. Mais cela, pour le moment, seuls les Chinois en ont déjà conscience. Deuxième invité dans nos studios à Issy-les-Moulineaux, Gabriel Grésillon, bonjour.
Bonjour.
Journaliste également et auteur de Chine, le grand bond dans le brouillard, aux éditions Stock. Vous, je vais citer un extrait de l'introduction à votre livre, c'est vraiment le premier paragraphe. Plus on découvre la Chine, plus on s'interroge sur la France. Appréhender cet immense pays, ce n'est pas seulement manger différemment, parler différemment, agir et penser différemment. C'est aussi comprendre à quel point l'esprit hexagonal fonctionne par système. Plus on s'y frotte, plus on se rend compte qu'il existe, schématiquement, deux types d'approches à son égard en France. Et vous, les voisins, la Chine, qu'est-ce que vous en pensez? Comment la voyez-vous? Modèle ou au contraire repoussoir? Si vous l'aimez, dites-nous pourquoi. Et si vous en avez une vision distanciée, dites-nous aussi pourquoi. Vos avis nous sont précieux au 33 1 84 22 71 71. Les voisins, la Chine ne vous laisse pas indifférent. Sur Facebook, vos commentaires abondent extraits. Mokhtar nous dit « Quand j'entends parler de la Chine, je pense à sa grande muraille, à ses calligraphies sublimes, à Jackie Chan, au mythe des dragons et au film d'animation Kung Fu Panda. Bref, la Chine, c'est la somme de toutes les merveilles architecturales et culturelles que constituent ses pagodes, son amour sempiternel pour les arts martiaux et le Tibet. Autant dire que la Chine est un partenaire privilégié de l'Afrique, d'où le foisonnement tous azimuts des entreprises chinoises en Afrique. Toutefois, la Chine est un des gros pollueurs de la planète, de quoi faire grincer les dents de Nicolas Hulot. Merci Mokhtar pour cette présentation vibrante. Françoise à Libreville nous dit, elle, la culture chinoise a l'air passionnante, mais les Chinois sont un peuple très spécial. Ils ne s'intègrent pas au pays d'accueil dans lequel ils vivent. Dans mon quartier, ils nous parlent à peine, pourtant ça fait des années qu'ils sont là. C'est dommage car les fréquenter nous permettrait de plus apprendre sur leur culture. Eh bien vous pourrez, Françoise, vous diriger vers l'Institut Confucius le plus proche, je suis certaine qu'à Libreville, il y en a un. Giresse nous dit « L'Afrique est comme une route non asphaltée que chaque Européen ou Américain fuit, mais les Chinois, eux, sont comme un Land Cruiser très fort pour atteindre même les régions les plus lointaines. Leur façon de travailler me plaît beaucoup, leur technique en BTP et dans le génie civil m'attire tout particulièrement. » Le mal que je déplore chez eux, c'est qu'ils sont de mauvais payeurs. Ça continue sur Facebook, Amadou à Conakry. La Chine est notre meilleur partenaire. La Chine et l'Afrique sont les meilleurs partenaires. Ils sont en train de construire des cités énormes, telles le Plaza Diamond, nous dit Amadou, en Guinée Conakry. C'est impressionnant. Dernier témoignage, celui de Dani Aboutembo, c'est en RDC. En voyant la Chine, je trouve une libératrice de l'Afrique. Si aujourd'hui le plus pauvre des Africains a un téléphone, connaît la tablette et peut avoir un ordinateur, c'est sans doute grâce à la technologie chinoise adaptée à la situation de tous les pays du monde. Outre cela, son régime politique m'inspire bien et j'ai compris que le vote n'est pas une solution au problème dans tous les pays. Chaque pays doit avoir son originalité politique adaptée à la tradition interne. Sa politique économique n'a jamais établi des extrêmes riches et des extrêmes pauvres. Alors, en fait, c'était un avant-dernier message. On termine à Madagascar avec Swavina et elle nous écrit de Thomasine. Je n'aime pas la Chine économiquement. Comme elle est un pays riche, gourmand en matières premières, la Chine exploite illicitement les richesses africaines.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Renaud Despins, Gabriel Grésillon, à la lecture de ces messages Facebook des voisins, on voit bien qu'on est vraiment entre les mythes et des réalités plurielles. Et pendant cette heure, nous allons donc faire des va-et-vient entre ces mythes et ces différentes réalités. Et je voudrais qu'on commence, Renaud Despins, par approcher, ébrécher un premier mythe, celui des Chinois et de l'amour. L'amour fait débat en Chine aujourd'hui.
Oui, l'amour fait débat. Bon, déjà, l'amour n'était pas... Les valeurs traditionnelles de l'amour étaient différentes des valeurs traditionnelles de l'amour en Occident. Et pendant l'immense épisode maoïste, c'était des sentiments qui étaient à la limite... qualifié de bourgeois, puisqu'il ne pouvait y avoir qu'un amour pur pour le parti et pour Mao. Or, on a connu depuis la libéralisation des années Deng Xiaoping dans les années 80, on a connu une sorte de mini-révolution sexuelle en Chine, où on a commencé à avoir des couples qui s'étaient vraiment choisis, alors qu'auparavant, c'était surtout pendant très longtemps, pendant laquelle période maoïste, c'était les unités de travail hein, qui présentaient des gens entre eux. Et ce début de romantisme, qui explique aussi d'une certaine manière l'attrait aussi des Chinois envers le modèle romantique français, ce début de romantisme a été un petit peu tué dans l'œuf ensuite avec la primauté du tout à l'argent qu'on a vu surtout avec le début de la crise financière 2008-2009, oui. Où on pouvait voir dans les émissions à la télévision, ou les émissions qui faisaient se rencontrer des candidats à l'amour, il y a eu des répliques extrêmement célèbres comme un candidat qui proposait à une jeune fille si tu es avec moi, si tu me choisis, eh ben on fera de longues promenades romantiques en vélo. Et la jeune fille avait répondu je préfère et on rira beaucoup. La jeune fille avait répondu je préfère rire dans pleurer dans une BMW que de rire sur un vélo. Et donc ça c'était le nouveau rythme de l'amour et du romantisme, c'est-à-dire un anti-amour et un anti-romantisme. Voilà, nouveau riche qui a eu lieu à partir de ces années 2008-2009 surtout, et qui maintenant, et c'est ça qui est intéressant, malgré un paysage politique qui est plutôt atone et très très conservateur, cette année à l'occasion de la Saint-Valentin, oui. On a vu dans la presse chinoise notamment de nombreux débats. De journalistes, de penseurs qui s'interrogeaient sur le fait est-ce que l'amour est une valeur qui diminue en Chine. Donc beaucoup d'inquiétudes dessus.
Qui déplorait en fait la disparition, enfin en tout cas la diminution du sentiment amoureux naturel.
Du sentiment amoureux, de la culture de l'amour, parce qu'en fait on se rend bien compte, là aussi c'est ce que Gabriel disait, c'est que on se rend bien compte que ces choses-là ne sont pas naturelles. La culture est extrêmement importante. On croit un petit peu avec notre culture globalisée que il suffit de tomber amoureux, de faire un French kiss à la fin et ça marche, mais non, c'est pas ça. Et chaque culture a ses propres manières d'exprimer le désir sexuel, le désir de vivre ensemble,
mais alors, qui n'est pas toujours non plus le même. Justement, Renaud Despins, pour ce qui est du désir sexuel et de la sexualité, la culture chinoise, je pense notamment au taoïsme, a sécrété depuis des centaines d'années une culture, un rapport au corps et à la sexualité très raffiné, qui a disparu.
Oui. Qui a complètement disparu. Et c'est intéressant parce qu'on a les premiers témoignages des couples mixtes franco-chinois au début du XXe siècle.
Et les dames ne s'en plaignaient pas.
Voilà, à l'époque c'était des Françaises, puisque c'était des travailleurs, des hommes donc masculins qui venaient en France, et les dames disaient, les dames françaises qui se mariaient, mais ils sont bien meilleurs amants que les Français, par exemple. Hein. Et aujourd'hui c'est le contraire. Après 70 ans de communisme, qui a été aussi un puritanisme effroyable. À l'époque, par exemple, on pouvait avoir même entre personnes mariées, pendant les les pires périodes du maoïsme, on ne pouvait avoir de relations avec son mari ou son épouse que le samedi, puisque tout le monde vivait en dortoir séparé homme-femme et qu'il y avait une seule journée où c'était possible pour pouvoir reproduire l'espèce quand même. Donc il y a eu.
Mais pas trop, mais pas trop. Un petit peu.
La reproduire. Voilà. Mais et l'amour, effectivement, le sexe et l'amour, c'était considéré comme des choses qui n'avaient que extrêmement peu de valeur. Et cela, on le voit encore dans la culture chinoise. L'approche du sexe est vraiment différente. Ce n'est pas, c'est beaucoup moins riche que dans la culture taoïste qu'avant. Et c'est moins sacré que chez nous aussi. D'une certaine manière, chez nous en Occident, le sexe c'est sacré. Il y a peut-être parfois un engagement, il y a quelque chose. En Chine, c'est moins lié au plaisir, d'abord, notamment pour les femmes, et c'est plus considéré comme quelque chose qui permet, alors soit le mariage pour les femmes, soit pour les hommes, de se libérer de toutes leurs tensions de la journée. Et c'est pas toujours avec leurs femmes.
Et alors, on est là vraiment très très loin du taoïsme, qui fonctionne sur un échange des énergies et une connaissance technique des corps de l'homme comme de la femme, et dont le but est évidemment un échange de plaisir optimum.
Oui, et c'est ce que dénoncent les grands sexologues chinois, comme la fameuse Li Yinghe, c'est que elles se font de... Il n'y a pas énormément, évidemment, la Chine est un pays où c'est difficile d'avoir des statistiques fiables, enfin quand même, depuis quelques années, il y a des études dessus, et cette sexologue chinoise prétend que, par exemple, les Chinois sont à la fois ceux qui consomment le plus de vidéos porno dans le monde et en même temps ceux qui ont les rapports les plus brefs et les moins intenses.
Le rapport peut être évident, le lien peut... Enfin, c'est pas très surprenant.
Non, mais disons qu'on on le sait pas forcément quand on s'intéresse pas. Effectivement, quand on a lu les histoires du juge Van Gulik ou l'histoire de la sexualité dans la Chine ancienne, on s'attend pas forcément à un pays qui est comme ça. Surtout que par rapport, par exemple, au monde indien ou au monde arabo-musulman, où on a un discours qui est très fort sur les tabous sexuels, on n'a pas ce discours-là présenté à l'extérieur. Donc, quand on connaît pas le pays, on peut être un petit peu...
On peut vraiment
étonné.
Passer à côté de cet aspect des choses. Autre aspect des choses à côté duquel on pourrait passer, vu de l'extérieur, de loin, le mythe voudrait qu'il y ait une espèce de culture de la cruauté, du cœur sec en Chine. Dans votre dictionnaire impertinent, de la Chine, vous battez aussi ce mythe en brèche en parlant de la gentillesse comme une valeur cardinale pratiquée, comme un élément culturel, au fond, des rapports entre les Chinois.
Oui, et ça c'est quelque chose qui remonte à très très loin. Évidemment, on pourrait dire aussi que l'environnement politique ou sociétal d'aujourd'hui a une influence dessus, mais on voit que ça va au-delà. Les Chinois, en général, font tout dans leur manière d'être pour mettre à l'aise les gens avec qui ils sont en rapport. Et c'est parfois un peu reposant par rapport, effectivement, nous on ne se rend pas compte, par exemple, en tant que Français, qu'on a une culture...
Ah, c'est sûr que les Français ne s'embarrassent pas de ce type de...
En France, on a une culture du conflit,
l'attitude, oui.
y compris entre amis, on se vanne
constamment.
Il y a
une vraie franchise, oui.
Mais c'est pas forcément ça, c'est-à-dire que si on ne se vanne pas entre amis, on n'est pas intelligent. En fait, c'est comme dans ce fameux film Le Père Noël est une ordure, quand on dit Madame Musquin elle est gentille, ça veut dire elle est bête.
Absolument.
Alors que en Chine, on dit Madame Musquin elle est gentille et ça veut vraiment dire qu'elle est gentille. Et donc il y a ce premier degré, cette naïveté, et le fait que les critiques, par exemple, on va pas forcément les donner, les envoyer à la face de ses amis comme ça, comme on le fait en France. Et quelquefois, effectivement, c'est assez reposant.
Gabriel Grésillon, la gentillesse des Chinois, vous qui avez vécu en Chine aussi, vous avez pu l'expérimenter ?
J'y ai vécu, j'y vis encore, j'y retourne dans deux jours. Je suis complètement d'accord, effectivement, avec ce que dit Renaud là-dessus. Je trouve que là, je passe quelques semaines en France et à nouveau, je suis frappé par la rudesse, exactement, c'est le mot que j'avais employé, des interactions humaines. Je le ressens un peu partout et en Chine, il y a quelque chose de reposant. Ça, cela dit, il faut pas non plus, puisqu'on vient de parler de rudesse, il peut y avoir aussi quelque chose de très rude à Pékin avec le chauffeur de taxi. C'est-à-dire que le mot politesse peut peut-être induire en erreur, mais il y a une forme de peut-être de bienveillance a priori dans l'attitude vis-à-vis d'autrui qui est précieuse, et ça fait partie de ces choses dont on sait qu'elles vont nous manquer quand on a vécu en Chine, voilà.
Et elle vous manque d'ores et déjà, si j'ai bien compris.
un petit peu.
Musique, justement, Guai Meng, tout de suite dans 7 milliards de voisins. Milliards de voisins vont en Chine avec à l'instant la musique de Guai Meng, ça s'appelle AM444. Est-ce que j'ai bien prononcé, Renaud de Spins, vous qui savez parler chinois?
Alors, vous avez dit
Guai Meng. Ça s'écrit J-G-U-A-I.
Oui, Guai.
Guai, bon, Guai Meng. Nous sommes avec vous qui êtes en duplex depuis Pékin et Gabriel Grésillon pour aller à la rencontre de cette Chine qu'on voit peu vue d'ici. Et je voudrais que vous nous expliquiez ce que veut dire le mot Tsaonima, découvert dans votre dictionnaire impertinent de la Chine. On vient de quitter des Chinois gentils, polis, affables, et là on est dans un juron qui a donné son nom à un groupe de rap NTM. Pour le reste, je vous laisse nous expliquer.
Voilà, alors Tsao, d'ailleurs c'est intéressant d'expliquer comment Tsao s'écrit, hein. On voit, c'est le signe de la pénétration et le signe de la chair, donc c'est quelque chose de très très parlant, donc ça veut dire niquer. Hein. Mm-hmm. Et Nima, c'est ta mère, donc voilà. c'est vraiment le nique ta mère universel qu'on trouve dans pratiquement toutes les civilisations chinoises, dans toutes les civilisations du monde. Dire. Et ce qui est amusant, c'est que... En revanche, en Chine, il y a évidemment une langue verte, hein, mais le mandarin étant une langue impériale, il y a un petit peu moins de variations dans l'argot. Et le tsonima est vraiment quelque chose d'universel qu'on entend partout.
Donc c'est très très mal poli de l'utiliser.
En revanche, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus mal poli que chez nous. Et donc, du coup, c'est plus décalé, c'est plus subversif. La grossièreté en Chine n'est pas comme chez nous. Normalement, c'est un marqueur social, c'est vers le bas. C'est un marqueur de virilité, éventuellement. Mm-hmm. Les femmes, par exemple, ne vont pas le dire. Un professeur d'université ne va pas le dire, normalement, même pour faire rire ses étudiants, enfin, à part les plus excentriques. Et donc, ça a été vraiment réutilisé il y a quelques années, comme un petit peu une expression de la société civile aussi contre le pouvoir en place, puisque il y a une bande de petits plaisantins qui, malgré la censure, il y a une encyclopédie en ligne en Chine qui ressemble à une sorte de Wikipédia qui est créé par Baidu, le moteur de recherche chinois.
Et vous continuerez de nous en parler tout à l'heure de l'autre côté du flash info, Renaud Despin, 7 milliards de voisins dont 1,4 chinois. Mais qui sont-ils? Comment vivent-ils? Comment se projettent-ils? On en parle avec nos deux invités. Nous continuerons d'aller à la découverte de la Chine nouvelle, géant économique, mais aussi pays aux poches pleines de vent, nous dira Gabriel Grésillon, où la censure se renforce et où il peut y avoir des revenus gris. À tout à l'heure.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
On est ensemble et on est ensemble aujourd'hui autour d'1,4 milliard, 1,400 000 de nos voisins, les Chinois. Nous intéressons à la Chine aujourd'hui, les voisins, et nous essayons de voir de près, de l'intérieur, comment pensent, vivent et se projettent les Chinois. Nous le faisons grâce à nos deux invités, Gabriel Grésillon, ici en studio à Issy-les-Moulineaux, auteur d'un livre à mettre entre toutes les mains, Chine, le grand bond dans le brouillard, aux éditions Stock, et un autre livre à recommander chez Books Éditions, Renaud Despin, avec Jean-Jacques Augier, Dictionnaire impertinent de la Chine. Avant d'être interrompu par le flash, Renaud, vous nous expliquiez la portée et l'importance de ce juron que je vais abréger en NTM, en chinois, pardon pour nos voisins chinois qui nous écoutent, ça se dit Tsaonima. Et vous nous disiez que c'était au-delà du simple juron, c'était un peu devenu un symbole de rébellion, notamment sur la toile.
Oui, parce que en 2009, il y avait une énième campagne anti-pornographie et il y avait un certain nombre de plaisantins internautes chinois qui, pour se rebeller, parce que souvent les campagnes anti-pornographie en Chine, c'est en réalité le prétexte à plus de censure. Hein. Mm-hmm. Et ils avaient créé, sur une encyclopédie en ligne chinoise, Baidu, ils avaient créé une entrée gag. Il faut savoir qu'il y a énormément d'homophones en chinois. Donc ils ont créé une entrée qui, si on le traduit littéralement en français, c'était le cheval de l'herbe et de la boue, qui était censé être une sorte d'animal mythique des légendes chinoises. Évidemment,
n'existait pas en réalité. Ce terme
se prononce tsaonima, c'est-à-dire c'était presque un homophone de nique ta mère. Et ce qui est très drôle, c'est que cet article gag est resté en ligne pendant des mois avant qu'il soit découvert.
Censure, donc.
Échappant à la censure. Et donc, c'est devenu un petit peu, et puis on l'a vu, ça a été répété ad nauseam aussi par, genre, le geste d'Ai Weiwei avec son doigt d'honneur devant la cité interdite. Donc, le tsaonima a aussi une connotation comme ça de rébellion sociétale en Chine.
Gabriel Grésillon, laissons la société pour nous intéresser à l'économie chinoise qui fait fantasmer, qui fait rêver, qui donne envie, parce que toujours plus florissante. Ce que vous dites dans votre livre, c'est que, attention au mythe, il y a une réalité derrière qui est beaucoup plus subtile et qui pourrait être moins enviable qu'il n'y paraît.
Oui, effectivement. C'est ce qui m'a un petit peu surpris. Moi, je couvre l'actualité de la Chine pour le journal Les Échos, donc par définition, je m'intéresse au quotidien à l'économie chinoise. Et je suis arrivé en Chine avec cette idée qu'on était un petit peu passé à côté de la réalité de la dynamique chinoise en France, parce qu'on était un peu trop idéologue et qu'on passait notre temps à dire le système politique de la Chine est mauvais, donc fermons-nous les yeux.
Donc vous êtes arrivé un peu en défiance.
Je suis en défiance vis-à-vis de la doxa française et plutôt avec l'envie de raconter ce miracle. Et en réalité, ce qui m'a plutôt frappé au cours de ces dernières années, c'est qu'il y a plein de problèmes systémiques et qu'en réalité, c'est devenu assez dysfonctionnel. C'est-à-dire que la Chine est en train de rentrer dans une phase de son développement économique très différente et qu'elle bute sur des problèmes nouveaux et que son système politique finit par devenir un point d'interrogation, un frein, parce qu'il n'est pas certain qu'il soit forcément le plus à même de résoudre ces problèmes.
En même temps, Gabriel Grésillon, est-ce que ce discours sur le système politique chinois comme frein à l'épanouissement et à l'évolution de la société chinoise n'est pas une vieille lune? Est-ce qu'on n'entend pas ça depuis une cinquantaine d'années?
Si, et enfin, je veux dire, je suis complètement d'accord avec vous qu'il faut être très très vigilant quand on dit des choses comme ça, parce que nous autres Français, on est quand même très forts pour plaquer nos schémas de pensée dès lors qu'on regarde en dehors de nos frontières. Et même quand on regarde à l'intérieur de nos frontières, j'ai l'impression que parfois on manque un peu de pragmatisme et de lucidité. Donc je suis peut-être en train de me tromper, mais si vous voulez, c'est quand même... en allant sur le terrain et en regardant. Il faut comprendre qu'il y a une dérive économique et financière de la Chine depuis 5 ans, depuis la crise financière. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer qui n'est pas bon dans la trajectoire de la Chine, qui n'est pas tenable. Alors, je ne sais pas. Voilà. Ben, non, c'est-à-dire qu'il y a deux. La Chine, au cours des dernières années, a eu deux moteurs principaux. Il y en a un que tout le monde connaît, c'est l'export. Le Made in China est partout. Et il y en a un autre qu'on néglige beaucoup plus ou qu'on connaît moins en Occident parce qu'il n'est pas visible ici, mais c'est l'investissement. C'est-à-dire que l'investissement des entreprises chinoises, c'est le boom de l'immobilier, c'est la production industrielle massive dans des secteurs que je ne vais pas vous lister ici, mais
vous pouvez en lister quelques-uns.
De l'acier, le ciment, les panneaux photovoltaïques, etc., etc. Et en fait, ces deux moteurs-là, ils sont en train de rencontrer des difficultés. Le moteur exportateur pour plusieurs raisons. D'abord, le fait que depuis la crise financière, les pays occidentaux consomment un peu moins. Enfin, la croissance de leur consommation est moindre. Oui. Et puis, pour une autre raison encore plus problématique pour la Chine peut-être, qui est le fait que ses coûts de production ont quand même très fortement augmenté.
Et qui sont du coup concurrencés par d'autres
voilà.
pays, comme le Bangladesh.
Oui, ou comme plein d'autres, en fait. C'est-à-dire...
L'Éthiopie aussi.
Vous avez des pays en Afrique, voilà, oui. L'Éthiopie, mais vous avez aussi, je veux dire, un truc incroyable, on voit maintenant un mouvement de réindustrialisation aux États-Unis, parce qu'en réalité, on ne va plus en Chine pour produire... on va en Chine maintenant pour produire près des consommateurs chinois, mais on ne va plus en Chine pour produire ultra low cost. Bon, après, il faut mettre de la nuance dans tout ça. Il y a des secteurs d'activité qui n'ont pas ce problème, mais voilà, si vous allez voir des producteurs de chaussures ou de jouets dans le sud de la Chine, ils sont décimés. Enfin, ils sont soit désespérés,
soit décimés. Et en même temps, Gabriel Grésillon, est-ce que ça n'est pas toute la force de la Chine? C'est-à-dire que ce qui se finit à un endroit peut renaître
tout à fait
à un autre, et cette espèce de... que la vieille Europe n'a pas, cette réactivité permanente aux réalités économiques du terrain.
Si, non, ça c'est une certitude, c'est-à-dire qu'ils ne s'embarrassent pas du tout de
pas
tout,
d'état d'âme.
Voilà, d'état d'âme,
pas,
de considération idéologique, on y va. Voilà. Mais en termes économiques, ce qu'il faut qu'ils fassent désormais, c'est ce qu'on appelle monter en gamme. Donc ça veut dire innover, et ça suppose notamment, en général, un écosystème juridique à peu près sain pour qu'un investissement, quand on veut rentrer dans une logique d'innovation, il faut être capable de dépenser des millions dans un projet, que la propriété intellectuelle soit protégée, que etc. Donc ça pose des questions d'environnement des affaires, et là sur le plan de l'environnement des affaires, la Chine est un pays qui a un très gros problème.
Oui, vraiment dans le brouillard pour le coup.
Voilà, quand même. Et puis le deuxième moteur que j'évoquais, c'est l'investissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'export a vraiment freiné brusquement avec la crise financière, la Chine, pour rester dans une dynamique insolente, a actionné le levier de l'investissement de façon massive, et qu'elle l'a fait via l'endettement. Et donc voilà, il y a aujourd'hui un problème sérieux d'endettement en Chine. Voilà.
Et donc pour vous, l'avenir est gris clair, gris foncé?
Non, alors. Si vous voulez, je pense que sur la Chine, il faut surtout pas faire des pronostics péremptoires, parce que c'est le meilleur moyen de se tromper.
J'imagine que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Gabriel Grésillon, Renaud de Spins. Pas de prévision.
Pas de prévision, c'est parce qu'en général on se gourre, mais non, si, moi on peut essayer d'en faire, mais en toute modestie, en se disant bon ben voilà, on peut se tromper.
Allez, lancez-vous.
Ah oui, sur effectivement, il y a quand même une énergie cinétique qui fait qu'il y a des capitaux qui continuent de tourner, de produire des choses, même si c'est pas, ça produit pas, la productivité n'est pas énorme. Mais moi, je me pose des questions sur les 5 ans à venir. Oui, après 5 ans, quelle sera, est-ce que ça peut encore aller, les moteurs, comme l'a très bien expliqué Gabriel, ne sont plus là. Donc ça peut tourner encore un petit peu dans le vide pendant un certain moment, mais sans libération, sans monter en gamme. La montée en gamme, pour monter en gamme, on a besoin d'ingénieurs, de web designers, qui soient quand même plus, qui n'aient pas ce problème de la censure, qui puisse devenir un nouveau Japon. Et pour l'instant, la Chine n'en prend pas le chemin. Donc à l'horizon de 5 ans, c'est plutôt gris, moi je pense.
Plutôt gris.
Ah mais complètement d'accord.
Spins, Gabriel Grésillon, pareil.
Complètement d'accord.
Vous parlez même dans votre livre d'un pays, d'un État aux poches pleines de vent.
Oui, alors ça c'est un chapitre que j'ai voulu faire parce que, si vous voulez, on est obnubilé par ce qui s'appelle les réserves de change de la Chine.
Oui.
Les gens qui ne sont pas spécialistes de l'économie n'en ont pas forcément une idée très très précise, mais la Chine a accumulé des milliards et des milliards de dollars via ses exportations. 4000 milliards de dollars, c'est absolument gigantesque, monstrueux,
il y a inédit. Pas
et inédit dans l'histoire. Et donc à partir de là, on se dit bon bah voilà, ils ont tellement d'argent que maintenant c'est réglé, c'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire les dollars de la Chine lui servent dans toutes ses démarches à l'extérieur et on voit comment elle facilite les financements, donc elle construit des choses en Afrique notamment massivement, mais il n'y a pas qu'en Afrique, et toute la stratégie actuelle de Xi Jinping avec sa nouvelle route de la soie, Xi Jinping c'est le président chinois. Oui. Toute sa stratégie consiste à généraliser cette démarche. Donc oui, les dollars de la Chine lui servent à l'extérieur de ses frontières. En revanche, à l'intérieur des frontières chinoises, ils ne servent pas à grand chose parce que c'est des dollars et qu'il faudrait les convertir en yuan. Bref, ce qu'il faut là, c'est distinguer la masse dont dispose une banque centrale et le budget de l'État. Et là, quand on commence à regarder les finances de l'État chinois et les finances de la Chine en général en interne, on voit qu'on avait une dette qui pesait à peu près 150% du PIB il y a 5 ans. Là, je vous parle de dette publique et privée, hein. Donc, les ménages, les entreprises et l'État. 150% du PIB il y a 5 ans. Et aujourd'hui, on est sur du 250 et on tend vers du 280. Donc, c'est littéralement une explosion de l'endettement de la Chine.
Totalement voilà. Intenable.
Qui n'est pas tenable, bien entendu. Donc, si vous voulez, moi, quand je dis, il faut pas faire de pronostic avec la Chine, c'est que je veux pas aller trop loin dans qu'est-ce qui va se passer au plan politique. Je n'en sais rien et bien malin celui qui le saura. Mais par contre, la Chine ne peut pas continuer sur la trajectoire actuelle, ça c'est une certitude. Et je rejoins complètement Renaud sur le fait que il y a des questions politiques que ça soulève, il y a un environnement de censure qui n'est pas propice au développement, à la suite du développement chinois. Donc il y a une question politique qui va se poser.
Un mot a été prononcé qui va certainement intéresser les voisins, c'est le mot Afrique. On va parler des rapports entre la Chine et l'Afrique, comment l'Afrique se positionne dans cet environnement que vous avez dressé, pour le moins contrasté, Gabriel Grésillon. Mais tout de suite, c'est la musique de Car Sick Cars, ça s'appelle 15 Minutes Older.
We'll be right back.
15 Minutes Older, c'était Carsick Cars dans 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, on va en Chine, on s'intéresse à la vie, aux projections, aux réalités chinoises avec vous les voisins et avec nos deux invités. Vous pouvez également réagir au 33 1 84 22 71 71. Vos avis, vos opinions, vos observations sont les bienvenus. Avant la musique, Renaud Despins, vous avez évoqué l'Afrique et je vous demande à l'un comme à l'autre, et je vais commencer par vous Gabriel Grésillon, est-ce que l'Afrique pourrait être un partenaire qui irait au secours de cette Chine sur une pente descendante telle que vous nous la présentez en tout cas?
Oui, enfin, je pense que oui et qu'elle l'est déjà.
Elle est devenue le premier partenaire économique du continent.
Il y a deux choses. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord toutes les ressources que la Chine va chercher en Afrique depuis longtemps. Il y a désormais, de façon évidente, tous les marchés qu'elle réussit à avoir là-bas. Elle construit des infrastructures dans des quantités qui ont l'air impressionnantes.
Alors justement, à ce sujet, un voisin du Sénégal, Moustapha, nous dit, qui est agent du fisc, c'est intéressant, nous dit « La Chine est un bel exemple en matière de coopération Sud-Sud. Elle nous assiste dans beaucoup de domaines, BTP, formation, c'est ce que vous évoquiez, Gabriel Grésillon. Elle a rénové tous les stades régionaux, contrairement aux autres pays européens qui, au lieu d'une coopération sérieuse, pillent nos ressources naturelles. »
C'est très très intéressant. Je pense que elle bénéficie aussi de tout le passif qu'il peut y avoir vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et de la France en particulier. Donc elle joue de façon un peu éhontée sur cette
carte-là. Éhontée, pourquoi?
Parce que ce serait bien naïf quand
Est-ce
même
que faire des affaires n'implique pas de faire des affaires de manière éhontée?
Bien entendu, mais quand on regarde aussi dans le détail, on voit bien que ça se passe pas toujours très bien. Et encore une fois, je veux pas du tout être caricatural et je pense que la présence de la Chine en Afrique est globalement positive, il n'y a aucun doute là-dessus, et que la réaction des Occidentaux, parfois, n'est pas très saine vis-à-vis de ça. Donc la Chine fait des choses très bien en Afrique, elle fait aussi parfois des erreurs.
À quoi pensez-vous ?
Elle fait venir ses travailleurs sur ses chantiers, elle propose des chantiers sans être trop regardante sur les questions environnementales, elle n'a pas forcément toujours l'expertise technique, et puis après on appelle la Banque mondiale à la rescousse parce qu'on est en train de faire un barrage, mais on a des problèmes techniques sur ce barrage. Ça, c'est des choses qui arrivent énormément sur le continent africain, et je pense que je n'apprends rien aux auditeurs africains en le disant. Mais sur le fond, c'est quand même une contribution positive parce qu'elle construit les infrastructures dont l'Afrique a besoin.
Et que les Européens ne construisent
bien
pas.
Entendu.
Renaud Despins,
voilà.
L'Afrique au secours de la Chine?
Oui, effectivement. Et c'est un moyen pour la Chine d'éviter de tomber dans ce qu'on appelle le piège des revenus moyens, c'est-à-dire elle produisait des choses à bas coût. Maintenant, les coûts ont augmenté, donc elle ne peut plus les produire à aussi bas coût, donc elle se trouve dans des coûts moyens. Or, sur un coût moyen sur les marchés occidentaux, elle n'est plus intéressante du tout. Mmh. Il n'y a que, notamment en Afrique, que ces produits de qualité moyenne à coût moyen sont intéressants. Par exemple, tout ce qui est l'infrastructure ferroviaire. Je citerai l'exemple du contrat entre la Chine et le Kenya pour la voie de chemin de fer entre Nairobi et Mombasa.
Oui.
Auparavant, cette voie de chemin de fer, elle avait été construite donc sous le colonisateur britannique,
oui,
donc
anglais.
Elle était très vieille. Il fallait 10 heures pour rejoindre Nairobi à Mombasa. Et maintenant, c'est pas un TGV, hein. Et effectivement, c'est moins cher que l'offre occidentale. Et maintenant, il en faudra plus que 4 heures lorsque ça sera construit. Donc, c'est une formidable opportunité pour la Chine que ses exportations ne soient pas complètement déséquilibrées.
Et que pensez-vous alors de ces objections qui reviennent régulièrement, notamment des pays européens, quant aux questions environnementales, aux questions de démocratie aussi, dans les rapports Chine-Afrique?
Alors, il y a effectivement une part de mauvaise foi. En revanche, comme nous le disait très bien Gabriel, il y a aussi des réalités. Enfin, je pense que les entreprises occidentales ne sont pas non plus exemptes toujours de ce genre de défauts. Les opérations chinoises en Afrique à présent sont massives. Il y a énormément de personnel qui sont envoyés, donc on fait face à un changement d'époque par rapport à avant.
Mmh.
Alors moi, ce qui me frappe parmi mes amis africains ou mes amis occidentaux ou chinois qui vivent en Afrique aujourd'hui, en revanche, alors s'il est vrai que c'est vraiment, ça va dans les deux sens. On voit chez certains Africains, notamment l'élite africaine, notamment les journalistes par exemple africains, on voit une fascination envers la Chine. On voit un vrai rêve chinois. Les Africains qui débarquent, les journalistes africains qui débarquent à Pékin en général sont éblouis.
Époustouflés.
Éblouis, époustouflés. Bon. Et en revanche, maintenant, on me dit, par exemple, au Cameroun, on me dit, mais maintenant, le racisme anti-blanc qu'il y avait avant, on le ressent presque plus parce que maintenant, les Camerounais détestent au plus les Chinois par rapport aux Blancs. Donc, il y a quand même une difficulté à s'intégrer pour les raisons que Gabriel a évoquées aussi, c'est-à-dire ces importations massives de main-d'œuvre, hein, et les Chinois qui vivent entre eux dans ces campagnes, dans leurs campagnes, qui consomment pas beaucoup local, qui viennent concurrencer aussi pas mal de petits commerces locaux. Donc, ça peut être tendu.
J'imagine que c'est aussi la dynamique de l'implantation qui veut ça et que dans quelques années, les choses auront un peu évolué. Comment les Chinois perçoivent les Africains en Chine ?
Alors ça aussi c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, sans faire de politiquement correct, hein, il faut dire que le passif était plutôt mauvais. Hein. Les Chinois, c'est un peu difficile à dire, mais les Chinois ont un racisme de premier degré, on va dire. Hein.
C'est-à-dire de premier degré.
C'est-à-dire, c'est un racisme sans trop réfléchir. Voilà. Un racisme sans trop réfléchir. C'est pour ça que je pense que c'est pas un racisme qui est extrêmement grave. C'est-à-dire, c'est pas un racisme qui va être idéologique, on va dire. Hein. C'est pas un racisme de deuxième degré réfléchi. Bon, c'est un racisme un petit peu de premier degré sans avoir réfléchi. C'est pour ça que souvent, ce racisme-là, il est pas très fort. Et si, par exemple, il y a des trajectoires qui forcent l'admiration, comme celle le président Obama qui est élu, les Chinois n'ont pas eu de réaction de racisme à cette époque, à ce moment-là, puisque ça montrait un petit peu le contraire. Leur racisme au premier degré, c'était les Africains, ils sont pas développés. Voilà, ils sont pas développés, ils sont pauvres. Nous, on est sortis de la pauvreté, et donc c'est un petit peu comme on regarde comme ils regardent leurs propres paysans à eux.
D'accord.
Et ça, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, c'est un pas en train de changer grâce aussi à la globalisation de la culture
et à la multiplication des rapports, j'imagine. Oui. Et puis la multiplication des rapports.
Sauf que ces rapports-là, il faut pas être angélique non plus. Hein, on pourrait épiloguer sur les vers de Baudelaire, amer savoir ce qu'on tire du voyage. Hein. C'est pas parce qu'on voyage, il y a 100 millions aujourd'hui de touristes chinois dans le monde, c'est pas parce qu'on voyage qu'on va forcément s'ouvrir complètement. Et les Chinois, beaucoup de Chinois qui vont en Afrique ont quand même, et qui reviennent, ont une image très négative. C'est une vie difficile pour eux. Ils y vont que pour gagner de l'argent. Pareil, certains Africains qui collaborent tous les jours avec des Chinois en Afrique ne sont pas toujours heureux, mais je pense que c'est un choc qui est nécessaire, qui est salutaire, et qu'il y aura une réflexion après. Je suis persuadé que la Chine et l'Afrique auront dans le futur des synergies évidentes à développer. Mais pour l'instant, c'est plutôt le choc quand même. Hein. Moi, les Chinois que je vois qui reviennent d'Afrique, à part ceux qui sont allés pour faire des safaris au Kenya ou ce genre de choses, ils sont un peu durs aussi avec l'Afrique.
Bon, c'est comme vous disiez, le choc des rencontres. Gabriel Grésillon, revenons à l'économie chinoise et au climat des affaires que vous évoquiez tout à l'heure. Un mot revient très régulièrement. C'est la censure, qui, semble-t-il, est un peu plus forte encore aujourd'hui.
Elle n'est pas un peu plus forte, elle est beaucoup plus forte.
Ce qui est problématique quand on bien entendu vise une ouverture sur le monde.
Bien entendu. Enfin, alors voilà, en réalité, moi, j'ai vraiment essayé de ne pas être idéologique dans le regard que je projette sur ce pays. Et en réalité, c'est quand on aborde ce point-là, qu'on peut avoir un petit doute. C'est-à-dire que moi, au fond de moi, et comme la plupart des Occidentaux, je pense, j'ai tendance à croire que pour innover, pour devenir une économie avancée, il faut un cadre intellectuel ouvert et il ne faut pas de la censure. Beaucoup de gens abordent ces sujets en disant « Oui, mais vous vous rendez compte, si demain il y avait le suffrage universel en Chine, ce serait le bazar. » J'y attendais, je vous parle pas de ça. Je vous parle juste d'un environnement de justice et de liberté d'expression.
Et c'est encore un espace à conquérir en Chine.
Et comment ? Enfin, on est à des antipodes de ça, et surtout on est dans une phase de régression. Et si vous voulez, c'est là que moi il me semble qu'il y a une certaine cohérence à dire la Chine est disons-le autrement, comme c'est étrange, c'est précisément au moment où la trajectoire économique de la Chine est en train de se corser de façon flagrante que il y a un serrage de vis au niveau de la censure massif. Voilà. Donc, on est dans ce moment où le pouvoir a identifié des fragilités nouvelles. Pour moi, c'est clair. Mmh. Et sa stratégie, c'est de renforcer son pouvoir à tout prix. Pour en faire quoi ? Est-ce que ce sera pour ouvrir le jeu un peu plus tard ? On peut toujours l'espérer. Mais en tout cas, à l'heure où on parle, on est plutôt dans une phase de repli qui est plutôt inquiétante. Je veux dire, même en ne se focalisant que sur l'économie, d'un point de vue strictement économique, c'est plutôt inquiétant pour l'avenir de ce pays. Voilà.
Merci beaucoup, Gabriel Grésillon. Je rappelle le titre de votre livre, Chine, le grand bond dans le brouillard, publié aux éditions Stock. Vraiment, je le recommande à tout voisin qui s'intéresse aux questions chinoises et qui aimerait les aborder avec un œil différent, pas moralisateur, mais de l'intérieur. On sent que vous avez aimé et que vous aimer ce pays et qu'en même temps, ça ne nous empêche pas de faire votre travail de journaliste.
Merci beaucoup.
Distancié et critique, l'excellent dictionnaire impertinent de la Chine aussi à recommander sur les étagères de toutes les bibliothèques. Merci beaucoup Renaud de Spins. Vous avez écrit livre publié aux éditions Books avec Jean-Jacques Audier. Et merci aux voisins qui ont bien voulu participer, donner leurs opinions via Facebook. Je sais que certains ont essayé de réagir au téléphone, mais il était un peu trop tard. Nous étions pris par le temps. Qu'il me pardonne. Demain, les voisins, nous nous retrouvons pour la dernière fois de la semaine et pour moi, puisque lundi, vous retrouverez Emmanuel Bastide. Demain, vendredi, sujet éduque. Comment accompagner les enfants qui souffrent de ces maladies silencieuses à l'école? Comment les accompagner? Comment aider leurs parents à les accompagner? Nous en parlerons avec le docteur Fatma Bouvet, la Maison Neuve. Merci à l'équipe 7 milliards, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Malès-Olartz, Éléonore Krenik et Victor Hull. Dans quelques secondes, c'est le journal.